Eschatologie et prophétie, une série d'émissions proposées par le Père François Dominique de la communauté des Capucins de Bastia.
Bonjour à vous tous, chers auditeurs, heureux de nous retrouver pour notre émission Eschatologie et prophétie. Nous poursuivons donc notre étude sur les fins dernières et nous sommes entrés la semaine dernière, donc dans ce cinquième chapitre du livre du père Philippe-Marie Margelidon, père dominicain de la province de Toulouse, sur le purgatoire avant la vision bienheureuse. Et nous avons vu donc que le document le plus autorisé à ce jour pour parler du purgatoire, eh bien, c'est le catéchisme de l'Église catholique, dans sa version dernière officielle, en 1997, après avoir réaffirmé l'existence du purgatoire au numéro 1021 et 1031, le catéchisme rappelle le sens et en donne la raison. Au numéro 1030, ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu, mais imparfaitement purifiés, bien qu'assurés de leur statut éternel, souffrent après leur mort une purification, afin d'obtenir la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie du ciel. Puis le numéro 1031, dans sa deuxième partie, rappelle que cette purification post-mortem, préalable à la béatitude céleste, se réalise par le feu dont il ne précise pas la nature. Le feu étant bien sûr une image, hein, puisque selon même d'ailleurs les mots de la Bible, hein, c'est par le feu qu'on éprouve aussi et qu'on purifie. L'or est purifié au feu. Donc cette image du feu, ce n'est pas une image de tourment comme on peut l'utiliser aussi pour parler de l'enfer. Ici, il s'agit bien d'une purification. L'Église, faisant référence à certains textes de l'Écriture, par exemple dans la première lettre de saint Paul aux Corinthiens ou la première lettre de saint Pierre, parle justement d'un feu purificateur. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la qualité de votre foi qui a bien plus de prix que l'or, cet or voué à disparaître et pourtant vérifié par le feu. Ainsi, que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Pour ce qui est de nature des fautes légères, il faut croire qu'il existe avant le jugement un feu purificateur, selon ce qu'affirme celui qui est la vérité, en disant que si quelqu'un a prononcé un blasphème contre l'Esprit-Saint, cela ne lui sera pardonné ni dans ce siècle-ci, ni dans le siècle futur, selon ce que nous dit l'Évangile de Matthieu, chapitre 12, verset 32. Dans cette sentence, nous pouvons comprendre que certaines fautes peuvent être remises dans ce siècle-ci, mais certaines autres dans le siècle futur, selon l'interprétation de saint Grégoire le Grand. En bref, le compendium donc du catéchisme de l'Église catholique qui a été édité en 2005 sous l'ordre du pape Benoît XVI, dit au numéro 102, il parle donc de purification proportionnée, puis au numéro 210, d'un éventuel besoin de purification pour entrer dans la béatitude du ciel pour ceux qui meurent en grâce. En 1998, le pape Saint Jean-Paul II, dans une lettre à Mgr Segui, évêque d'Autun, rappelle que certains hommes ayant achevé leur vie se purifient encore dans l'au-delà, pour les âmes du purgatoire, l'attente du bonheur éternel de la rencontre avec le bien-aimé est source de souffrance à cause de la peine due au péché et que le temps de la purification achevée, l'âme ira à la rencontre de celui qu'elle désire. C'est le retardement de la vision comme peine du péché qui est la cause principale de la souffrance pour l'âme en état de purgatoire. Cette peine spirituelle de la privation de la vision de Dieu est une peine provisoire et qui provient donc du fait que la vision de Dieu est différée. Et cela est la cause de cette souffrance purificatrice et expiatrice. Le document ajoute que par l'épreuve du purgatoire, si cela leur est nécessaire, les âmes qui sont retenues sont purifiées et parviennent ainsi au bonheur éternel. Enfin, pour ces défunts pénitents, il s'agit d'obtenir la rémission des peines dues à leurs péchés. Dans une catéchèse du mercredi du 4 août 1999, ce même pape Jean-Paul II est revenu une dernière fois sur le purgatoire. Le pape insiste sur la nécessité d'une purification pour tous ceux qui, morts dans la foi et dans la grâce, sont encore imparfaitement ouverts à Dieu, non pour changer de destin, car le purgatoire n'est pas le prolongement de la situation terrestre, mais pour opérer le passage d'un état d'imperfection à l'état de perfection correspondant à ses mérites. C'est donc un processus divin, on pourrait dire, de perfectionnement par purification vers la parfaite intégrité. L'exigence d'intégrité s'impose évidemment après la mort pour entrer dans la communion parfaite et définitive avec Dieu. Celui qui ne possède pas cette intégrité doit passer par la purification. Car l'offrande de la miséricorde n'exclut pas le devoir de nous présenter purs et intègres devant Dieu. En effet, la rencontre avec Dieu requiert une pureté absolue. Le pape précise que toute trace d'attachement au mal doit être éliminée, toute difformité de l'âme corrigée. La purification doit être alors complète, et c'est précisément cela que traite la doctrine de l'Église sur le purgatoire. Le purgatoire n'indique pas un lieu, mais bien une condition de vie, un état de vie, pour ceux qui, après la mort, vivent dans un état dit de purification, et qui sont établis déjà dans l'amour du Christ. La dimension ecclésiale du purgatoire est soulignée. Ceux qui se trouvent dans une condition de purification sont liés intimement aux bienheureux et aux fidèles de la terre. Cette catéchèse du pape Jean-Paul II renvoie aussi au numéro 1030 et 1032 du catéchisme de l'Église catholique et rappelle la signification du purgatoire, mais ne dit rien des moyens de la peine du purgatoire en elle-même. Sans être, bien sûr, un texte magistériel, puisque c'est une catéchèse au fond, on doit aussi mentionner le document de la Commission théologique internationale en 1992, quelques questions actuelles concernant aussi l'eschatologie. Ce texte offre une bonne présentation de la doctrine catholique du purgatoire, mais il ne dit rien de substantiel sur la nature des peines du purgatoire et leur mode. En revanche, elle exprime avantageusement leurs raisons et leurs fins. Un paragraphe intitulé « La purification de l'âme pour la rencontre avec le Christ glorieux » souligne que l'Église confesse que toute souillure ou tache est un empêchement à la rencontre intime avec Dieu et avec le Christ. Alors, voyons aussi maintenant quelle sorte de péché nécessite cette purification. Ce principe purificatoire ne doit pas être compris seulement quant aux tâches qui rompent et détruisent l'amitié avec Dieu et qui, si elles demeurent à la mort, rendent donc la rencontre avec Dieu définitivement impossible. C'est ce qu'on appelle donc les péchés mortels. Le péché mortel est dit justement mortel parce que, la communion avec Dieu, la vie divine en nous est détruite. Donc il est nécessaire que l'âme dans cet état retrouve la vie par le sacrement de la réconciliation. Mais donc quant au purgatoire, nous parlons des tâches, des peines, des péchés qui obscurcissent cette amitié, non pas celle de rompre la communion, parce qu'une fois que la communion est rompue, eh bien, il faut la repentance et aussi, bien sûr, le sacrement de la pénitence, hein, de la réconciliation, pour retrouver la communion avec Dieu. Mais quand on parle aussi du purgatoire, nous parlons donc de ces péchés, de ces tâches qui accompagnent ces péchés, qui obscurcissent cette amitié et qui doivent être préalablement purifiées pour que cette rencontre soit possible. De ces tâches font partie ce que l'on appelle les péchés quotidiens, ou alors, comme on les a appelés aussi dans la morale chrétienne, les péchés véniels, ainsi que les séquelles des péchés qui peuvent demeurer chez les hommes justifiés après la rémission de la faute. Rémission qui, rappelons-le, délivre de la peine éternelle lorsque nous avons commis un péché, quel qu'il soit d'ailleurs, eh bien, c'est la peine du péché est remise par la miséricorde, et donc ça peut être aussi un acte de contrition, ça peut être une pénitence, ça peut être un acte pénitentiel, comme on le dit, dans une liturgie, à la messe ou autre, et bien sûr au sacrement de la réconciliation, mais pas uniquement, hein. La miséricorde n'est pas réservée uniquement, hein, au sacrement de la réconciliation. Le sacrement de la réconciliation est nécessaire pour redonner la vie après les péchés mortels. Mais les péchés véniels peuvent être remis de différentes manières, à travers justement notre prière, à travers des actes de charité. Saint Paul dit que la charité couvre une multitude de péchés. Donc tous ces péchés, toutes ces fautes, ces peines aussi, ces fautes plutôt du péché, sont remises par la miséricorde de Dieu à l'âme qui se repent. Mais les séquelles de ces péchés, c'est-à-dire la peine des péchés qui a été commise, donc, et ce qui a aussi fait obstacle à l'amour de Dieu dans notre vie, c'est ça la peine, cela demande aussi une purification. Et ainsi, donc, les séquelles des péchés qui peuvent demeurer chez les hommes justifiés après la rémission de la faute, rémission qui délivre de la peine éternelle, sont remises par cet état du purgatoire, elles n'ont pas pu être expiées sur terre. Ce n'est que qu'en devenant conformes au Christ, bien sûr, que nous pouvons être en pleine communion avec Dieu. Aussi sommes-nous invités à la purification. Même celui qui s'est lavé doit être débarrassé de la poussière de ses pieds, selon aussi ce que Saint Jean nous rapporte, ce que Jésus nous dit donc au soir de la scène, lorsque dans ce geste du lavement des pieds, il dit à Pierre, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Donc, c'est bien de cette purification nécessaire pour entrer dans la pleine communion. Pour ceux qui ne l'ont pas fait suffisamment sur la terre par la pénitence ou par les œuvres de charité, l'Église croit qu'il existe un état de purification après la mort, puisque cette purification a lieu après la mort et avant la résurrection finale. Cet état appartient au stade eschatologique intermédiaire. Plus encore, l'existence de cet état montre l'existence d'une eschatologie intermédiaire. La pratique de la prière dans l'Église pour les défunts contient une profession de foi en l'existence de cette purification. C'est là le sens de la liturgie, en particulier la liturgie des funérailles, que l'on ne doit pas éclipser. L'homme justifié peut avoir besoin d'une purification ultérieure. Et donc, il est aussi recommandé de célébrer, en particulier de faire célébrer des messes pour nos défunts, même si, entre parenthèses, je le rappelle aussi, les intentions de messe ne servent pas uniquement pour la purification des défunts. Elles peuvent servir pour toute intention que l'on porte, aussi bien pour les vivants, pour une action de grâce, pour aussi bien voilà une demande particulière. Donc, il ne faut pas non plus aussi instrumentaliser, entre guillemets, la messe et la réserver uniquement comme, pour la purification des défunts, de l'âme des défunts. Même si, évidemment, bien sûr, il est de coutume et de dévotion de prier, bien sûr, pour les âmes du purgatoire et de faire célébrer des messes pour nos défunts, puisque, bien sûr, le sacrifice de la messe est la grande purification. C'est par le sang du Christ que nos âmes sont lavées de toute souillure. Dans ces documents donc, que l'on a rapportés du magistère, on souligne la nécessité, bien sûr, d'une peine proportionnée à la faute, dont le moyen prend l'image d'un feu temporaire en vue d'être délié et parvenir ainsi à la béatitude céleste. Donc les âmes qui sont en état de purgatoire, eh bien, savent qu'ils sont sauvés, savent que, eh bien, ils entreront dans cette béatitude céleste. Donc il y a un espoir, ils ne sont pas dans le désespoir de leur état. Ils savent que déjà ils seront sauvés, mais que, eh bien, voilà, et la peine, c'est justement ça, c'est justement de savoir qu'on entrera dans cette béatitude, dans cette communion avec Dieu, mais que, eh bien, pour l'instant, nous en sommes encore privés. Il s'agit de peines qui sont dites purificateurs ou purifiants ou purgatifs pour les péchés véniels, légers ou minimes, dont il convient d'être délié, soit quant à la culpe, soit quant à la peine. En ce qui concerne donc la peine des péchés mortels, non satisfaite par la pénitence, elle le sera au purgatoire. En revanche, rien n'est explicitement dit de l'adéquation de la peine purificatrice au péché en justice et du rôle de la charité dans le processus aussi d'expiation. Dans ces documents, on ne parle pas malheureusement de ce texte de saint Paul, qui quand même nous dit que bien, la charité couvre une multitude de péchés. Et l'acte de charité, dans la pratique aussi de l'Église, eh bien, a ce rôle aussi de purification aussi pour notre âme. On remarquera d'ailleurs que le magistère ne distingue pas nettement ces deux peines. Il y est seulement question d'un feu purifiant et d'une peine purificatrice de l'âme préalable à l'obtention de la béatitude en raison d'une imperfection. Faute d'une exacte pénitence durant la vie terrestre. Alors, qu'en est-il du point de vue œcuménique par rapport entre la différence entre la doctrine catholique et la doctrine orthodoxe ou protestante ? L'inventaire du donné historique n'est pas pleinement abondant, mais il explique pour une bonne part que le purgatoire constitue un point de divergence entre l'Église catholique et l'orthodoxie, qui nous trouve beaucoup trop curieux sur ce point. De même, les Églises qui sont issues de la réforme protestante, en raison de leur principe biblique « sola scriptura », et de leur réaction contre les abus des indulgences pour les défunts, ne tiennent pas l'existence du purgatoire, quoique certains aujourd'hui, rejettant la foi en un enfer éternel, en viennent à concevoir une sorte, on pourrait dire, d'état transitoire, provisoire, qui ressemble étrangement à une sorte de purgatoire. La doctrine catholique du purgatoire ne fait pas encore l'objet de discussions de fond dans les dialogues œcuméniques proprement dits. Ces dialogues donc entre catholiques et protestants et orthodoxes. Dans la tradition orthodoxe, par exemple, il n'y a pas d'état intermédiaire entre le paradis et l'Hadès pour les âmes dans l'attente de la résurrection et du jugement dernier. L'eschatologie orthodoxe est polarisée par la parousie à l'égard de laquelle les âmes des défunts sont dans l'attente. Sur ce point, il conviendrait en effet que les choses soient plus claires qu'elles ne le sont actuellement, dans la conscience chrétienne catholique particulièrement. S'il est vrai que dans l'Orient ancien, l'orthodoxie actuelle ignore l'idée des peines purificatrices et expiatrices dans l'au-delà, toutefois, on voit qu'ils reconnaissent divers degrés de béatitude et de souffrance dans cette condition provisoire. La prière pour les défunts contribue aussi, dans le monde orthodoxe de l'orthodoxie, à procurer aux âmes repos et fraîcheur. Donc on voit bien qu'il y a une certaine forme aussi de nécessité de purification, un état de purification pour pouvoir entrer aussi dans la pleine communion avec Dieu. Ça paraît tellement évident et nécessaire, justement. Quant aux protestants, leur opposition est plus radicale, puisqu'ils n'admettent pas la légitimité de la prière pour les défunts. C'est de là d'ailleurs qu'est née la réforme protestante, à partir des fameuses indulgences à lesquelles s'est opposé en particulier Martin Luther. Pour sa part, donc, Luther réprouve l'ensemble de la doctrine catholique. Pourtant, jusqu'à la dispute de Leipzig en 1518, il admettait l'hypothèse du purgatoire, quoiqu'il ait émis un doute sur la possibilité d'en prouver l'existence d'après l'Écriture. Pourtant, si on regarde bien dans le texte des Saintes Écritures, il y est bien parlé justement aussi de cette nécessité de prier pour les défunts, de prier pour les morts. Mais ensuite, il condamnera aussi fermement la pernicieuse doctrine catholique du purgatoire, comme il dit, au titre où elle déroge absolument au principe de la gratuité du salut par la foi. Elle ne dépend en rien d'une quelconque purification pour lui. Et de son côté, aussi, Calvin déclarera plus tard qu'elle est une fiction, carrément. Une invention pernicieuse de Satan, qui rend vaine la gloire du Christ. La vieille confession de foi des églises réformées de France reproduit cette condamnation et l'exprime dans le langage violent utilisé chez les théologiens de ce temps-là. Citation : Nous tenons le purgatoire pour illusion qui procède de la boutique de Satan, de laquelle aussi procèdent les vœux monastiques, les pèlerinages, les abstinences de viande, les confessions auriculaires et les indulgences. Voir pour cela donc dans Confession et catéchisme de la foi réformée, aux éditions Genève, Labor et Fides, 1988, page 122 et 123. Pour les protestants donc de la Réforme, la vie présente a pour but de manifester le salut que Dieu nous accorde en Jésus-Christ. Pour Luther, le dilemme est simple. C'est soit la communion avec Dieu, soit la séparation d'avec Dieu. Et ceci dès la vie terrestre. D'autant que Luther est réservé sur l'immortalité de l'âme que l'état hypothétique du purgatoire suppose. Pour Calvin, en revanche, l'immortalité de l'âme est le propre de l'homme, ce qui le distingue des animaux. Mais pour lui, Dieu redonnera leur corps aux âmes lors de l'unique jugement qui aura lieu à la fin des temps. Donc pour lui, pour Calvin, il n'y a qu'un seul jugement qui est le jugement que nous appelons le jugement dernier, le jugement universel à la fin des temps. Il n'y a pas de jugement particulier pour Calvin. Le protestantisme contemporain est peu porté à spéculer sur toutes ces questions, c'est-à-dire donc pour tout ce qui est les églises évangéliques, comme on les appelle aujourd'hui. Quelques théologiens luthériens, cependant, considèrent plus positivement l'idée d'un jugement purificateur. Ils distinguent l'idée du jugement eschatologique et du feu, attesté dans la tradition ancienne par Clément d'Alexandrie, de l'idée discutable au Moyen-Âge d'un feu purificateur intermédiaire avant le jugement dernier. Il refuse la doctrine proprement dite du purgatoire, entendu comme processus de purification post-mortem avant le jugement dernier. On peut dire que le jugement dernier est anticipé hors de notre espace-temps, en ce qu'il réalise une transformation des justes dans le Christ par un feu d'amendement et non un feu destructeur. Donc du point de vue aussi de l'Église réformée, protestante, eh bien, il y aura aussi, donc entrera ici en jeu, hein, la prédestination, toute la question aussi du débat sur la prédestination. Certains, donc pour du point de vue de la doctrine protestante, sont prédestinés à être sauvés au ciel, donc à la communion avec Dieu, et d'autres sont prédestinés à l'enfer, hein, c'est-à-dire à la séparation avec Dieu. Donc bien sûr, pour nous catholiques, c'est des positions qui sont inadmissibles, hein, et qui créent justement aussi, hein, l'hérésie, hein, proprement dite, c'est-à-dire cette erreur l'énoncé de la foi, hein, dans laquelle aussi sont engagés, eh bien, les membres de la réforme protestante. C'est pourquoi donc l'Église catholique, eh bien, considère toujours la doctrine protestante comme une doctrine hérétique, et pas seulement uniquement sur le point de vue eschatologique, c'est-à-dire du côté de ce qui vient après la mort, mais aussi voilà pour d'autres questions théologiques, hein, sur la grâce, sur la nécessité justement des sacrements pour le salut, la nécessité aussi de reconnaître les intermédiaires choisis par Dieu, hein, à travers déjà les anges et aussi les saints. Et puis bien sûr tout ce qui touche à la reconnaissance de la maternité divine de Marie et au culte aussi que l'Église vénère à travers la Vierge Marie, mais aussi le culte des saints. Donc tout ça, bien sûr, voilà, nous fonde ce qu'on appelle, hein, l'hérésie, hein, déclarée avec le protestantisme en l'occurrence. Rappelons que pour l'orthodoxie, il n'y a pas d'hérésie proprement dite, d'hérésie proclamée, mais un schisme, c'est-à-dire une division, une rupture de la communion avec la tradition apostolique. Voilà, bien, nous terminons ainsi notre émission pour cette semaine. Nous reviendrons dans l'émission prochaine, encore dans une dernière émission aussi, pour encore préciser ces peines du purgatoire et voilà, cet état aussi nécessaire pour que nous puissions aussi, voilà, être pleinement et totalement sanctifiés, avec aussi les grâces, hein, que l'Église nous donne justement pour nous purifier dès ici-bas, hein, ici sur terre, à travers la prière, à travers la pénitence, le jeûne aussi, tous les exercices aussi, voilà, de dévotion, et aussi les grâces des indulgences pour la sanctification des âmes. Bonne semaine à vous tous, et puis donc rendez-vous la semaine prochaine pour notre émission Eschatologie et Prophétie.
Eschatologie et Prophétie, une série d'émissions proposées par le Père François-Dominique de la communauté des Capucins de Bastia.